Allez, donc chronique astro numéro 19. Bonjour Michel.
Bonjour Joël.
Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'actu et l'envoi de la sonde ExoMars.
Voilà, ces derniers jours, l'information la plus importante dans le domaine de l'astronomie et de l'astronautique était le lancement réussi de la sonde européenne ExoMars, qui était portée par une fusée Proton, depuis le site de Baïkonour. Alors comme je l'avais déjà expliqué, c'est la période de lancement idéale pour les sondes martiennes puisque nous sommes proches de l'opposition, hein, j'en reparlerai tout à l'heure dans la chronique. Donc c'est le moment où la distance séparant Mars de la Terre est la plus faible, mais ça fait quand même dans les 80 millions de kilomètres. Donc dans les conditions de ce genre, le trajet dure à peu près 6 mois avec nos technologies de propulsion actuelles et donc ExoMars arrivera vers Mars en octobre. Cette sonde est constituée de deux parties. Tout d'abord un satellite appelé TGO, hein, ce qui veut dire en anglais Trace Gas Orbiter, car son but est d'étudier les gaz de l'atmosphère martienne, comme d'autres sondes américaines et indiennes le font déjà. On observera en particulier le méthane, qui semble obéir à des cycles saisonniers, ce qui pourrait être un indice de la présence de vie dans le sous-sol martien, dont l'activité varierait en fonction de l'ensoleillement. L'autre partie est un atterrisseur relativement petit, hein, il fait 2,40 m de diamètre et environ 600 kg. Il est nommé EDM, ce qui signifie en anglais Entry, Descent and Landing Demonstrator Module. Mais il a été aussi baptisé Schiaparelli, en hommage à l'astronome italien du 19e siècle qui avait cru voir les fameux canaux sur Mars. C'est donc un module de démonstration qui permettra de vérifier que les Européens sont capables de poser en douceur un engin à la surface de Mars. Et ce n'est pas une mince affaire, car entre les années 75 et 2000, la moitié des sondes américaines ou russes qui ont tenté de se poser se sont écrasées en fait à la surface de Mars. Donc une fois à la surface, si tout se passe bien, les instruments d'ExoMars de mesure et d'image de cette sonde ne fonctionneront que quelques jours car il n'est pas doté de panneaux solaires qui permettraient de les alimenter pendant une durée beaucoup plus longue. Le programme ExoMars comprend une seconde mission prévue en 2018 à la prochaine opposition, dont l'objectif sera de poser cette fois un rover à la surface de Mars, c'est-à-dire un petit véhicule qui pourra se déplacer. Il n'est pas très gros car il ne pèsera que dans les 300 kg et il sera doté d'un instrument unique pour l'étude de Mars, une foreuse capable d'aller chercher des échantillons jusqu'à 2 mètres de profondeur dans le sous-sol. Toujours dans la même idée que dans le sous-sol, sous la surface, il existe de l'eau et qu'elle contient peut-être des formes de vie comme des bactéries ou des preuves de l'existence d'une vie passée.
Allez, toujours sur votre chronique, Michel, allez, le thème, les mouvements des planètes du système solaire et leur observation depuis la Terre.
Voilà, dans des précédentes chroniques, j'ai déjà parlé du système solaire, notamment pour essayer de donner les échelles de taille et de distance des planètes. Mais en raison des phénomènes qui vont se produire les prochaines semaines, en avril et en mai, il m'a semblé intéressant de compléter cette vision un peu statique en abordant la question du mouvement des planètes et de la façon dont on peut les remarquer en observant le ciel. Quand on observe le ciel de la Terre, il nous semble que le sol est immobile et que c'est toute la voûte étoilée la nuit ou dans la journée le soleil qui se déplace de l'est vers l'ouest en effectuant un tour en 24 heures. Cette vision naturelle explique que les premiers modèles du cosmos, notamment dans la Grèce antique à l'époque de Ptolémée et d'Aristote, étaient géocentriques, c'est-à-dire plaçant la Terre immobile au centre et tous les astres tournant autour d'elle, le soleil, la lune, les planètes et les étoiles. Dans ce modèle, les planètes posent un problème particulier car elles se déplacent dans le ciel par rapport aux étoiles, très lentement de l'ouest vers l'est. Dans une vision simple, on imaginait qu'elles étaient plus proches de la Terre et se déplaçaient chacune à une vitesse différente. Mais des observations plus précises montraient que leur mouvement n'était pas aussi simple, j'y reviendrai dans quelques minutes. Et on finit par comprendre au XVIe siècle qu'un autre modèle était plus compatible avec les observations, c'est le modèle héliocentrique, c'est-à-dire avec les planètes, y compris la Terre, qui orbitent autour du Soleil. C'est Copernic qui a le premier proposé cette solution, qui a été confirmée par les premières observations à la lunette de Galilée, au début du XVIIe siècle. Mais c'est surtout avec Kepler que ce modèle devient mathématique, avec les lois qui régissent les mouvements, qui ont été publiées en 1609 et 1619 par Kepler, et qui furent complétées en 1686 par la théorie de la gravitation universelle de Newton.
Mais alors Michel, quelles sont ces fameuses lois de Kepler ?
Alors sans entrer dans les détails mathématiques, on va dire, les fameuses trois lois de Kepler nous renseignent sur les orbites des planètes qui sont des ellipses. C'est la première loi de Kepler, dite loi des orbites. Mais en pratique, ces ellipses sont très peu allongées et ressemblent beaucoup à des cercles. La deuxième loi est dite loi des airs. Elle nous parle de la vitesse de déplacement des planètes sur leurs orbites. Plus on est proche du Soleil, plus on se déplace vite. La troisième loi, dite loi des périodes, donne le rapport entre la taille de l'orbite et la période de la planète, c'est-à-dire le temps qu'elle met à parcourir un tour complet. Bien qu'elle soit vieille de 400 ans, ces lois sont encore bien utiles aujourd'hui pour étudier tous les mouvements des astres les uns autour des autres. Les planètes autour des étoiles, les satellites autour d'une planète. Par exemple, quand on observe une exoplanète orbitant autour d'une étoile, la troisième loi de Kepler nous aide à connaître la distance entre l'étoile et la planète en connaissant la durée d'une révolution complète. Si on revient à notre système solaire, la Terre est la troisième planète en distance par rapport au Soleil et parcourt son orbite en un an. Vénus, qui est plus proche du Soleil, le fait en seulement 8 mois environ, et Mercure bien plus proche en environ 3 mois. C'est la deuxième loi de Kepler, plus on est près du Soleil, plus on se déplace vite. On dit que ces planètes sont des planètes intérieures, car leurs orbites sont à l'intérieur de celles de la Terre. Cela veut dire que ces planètes, qui vont plus vite, nous doublent très souvent, et quand elles passent entre nous et le Soleil, c'est ce qu'on appelle un transit. On voit comme une mini-éclipse, avec le tout petit disque noir de la planète traversant lentement le disque lumineux du Soleil, qui lui est beaucoup plus gros. C'est ce qui va se produire le 9 mai prochain, pour Mercure, entre 13h12 et 20h42. Comme pour toutes les observations concernant le Soleil, il faudra prendre des précautions pour ne pas s'abîmer les yeux, des lunettes spéciales éclipse, si on a gardé par exemple celle de l'éclipse de l'an dernier, ou pour les instruments, il faut des filtres spéciaux, ou projeter l'image du Soleil qu'on observe indirectement. Comme Mercure est tout petit sur le limbe solaire, je pense qu'il est presque invisible à l'œil nu, mais nécessite de grossir l'image du Soleil pour l'apercevoir. Je conseillerais donc aux auditeurs de se rapprocher des clubs d'astronomie, dont beaucoup proposeront au public de venir observer le phénomène en toute sécurité dans leurs instruments. C'est un lundi, mais comme cela dure tard dans la soirée, presque jusqu'au coucher du Soleil, il sera possible de le voir bien après le travail ou l'école.
Alors vous nous dites, je pense qu'il est invisible à l'œil nu, mais vous n'avez jamais vu de transit de Mercure ?
Eh ben non, effectivement. Et si j'invite les auditeurs à essayer cette observation, c'est que c'est un phénomène plutôt rare. Les planètes se déplacent grosso modo dans le même plan, mais pas exactement. Il y a de légères inclinaisons des orbites les unes par rapport aux autres. Du coup, il n'y a pas de transit à chaque fois que Vénus ou Mercure passent entre nous et le Soleil. C'est même tout le contraire. La plupart du temps, elles passent soit au-dessus, soit en dessous du Soleil dans le ciel. Et il n'y a pas de transit. Pour Mercure, les transits peuvent avoir lieu soit en mai, avec des périodes de 13 ou 33 ans, soit en novembre avec des écarts de 7, 13 ou 33 ans. En général, il n'y en a que 13 ou 14 par siècle. Mais c'est pour la Terre en entier. Si on prend un endroit particulier comme la France, c'est beaucoup plus rare. Sur environ 60 ans, de 1974 à 2032, il y a eu ou il y en aura 8 en tout, mais certains se déroulent alors que le Soleil n'est pas encore levé en France, il faudrait être en Asie ou dans le Pacifique pour les voir, ou quand le Soleil est déjà couché, là il faudrait être en Amérique pour le voir. Donc sur ces 8 transits, il y en avait seulement 4 qui étaient ou seront visibles en France. Il y en a eu un le 7 mai 2003, mais comme je ne l'ai pas vu, je pense, je m'en rappelle plus vraiment, mais que la météo était sans doute mauvaise. Il y aura celui de cette année, et les suivants seront le 11 novembre 2019, mais on ne verra pas la fin, Mercure sortant du Soleil après qu'il soit couché, et ensuite le 13 novembre 2032, mais là aussi on ne verra pas la fin. Donc le transit du 9 mai sera un des seuls visibles entièrement en France avant longtemps, et on espère qu'il fera beau. Pour Vénus, c'est encore beaucoup plus rare, car le cycle des orbites ne rend possible que 2 transits tous les 130 ans environ, avec un écart d'abord de 8 ans, puis de plus d'un siècle. Il y a donc des générations d'astronomes qui n'en verront jamais. La nôtre a eu beaucoup de chance avec un premier transit de Vénus le 8 juin 2004 qui a pu être bien observé car la météo était bonne sur une grande partie de la France, puis un autre le 9 juin 2012 où la météo était pourrie sur une grande partie de la France et par exemple je ne l'ai pas vu. Le prochain sera en 2117. L'observation des transits avait un intérêt scientifique dans le passé. Car si on l'observait depuis des points très éloignés sur Terre, par exemple en Inde et en Amérique, en mesurant très précisément le petit écart de temps dû au décalage des observateurs, on pouvait, pour faire simple, je veux dire par triangulation, calculer avec une bonne précision les distances Soleil-Terre et aussi les distances du Soleil aux planètes intérieures.
Mais pour les autres planètes, y a-t-il aussi des phénomènes observables dans le ciel, Michel ?
Alors si on s'intéresse maintenant au cas des planètes extérieures, c'est-à-dire plus éloignées du Soleil que la Terre, Mars, Jupiter et Saturne pour celles qui sont visibles à l'œil nu dans le ciel. Le phénomène est exactement inverse. C'est la Terre, plus rapide sur son orbite, qui les double, en passant entre elle et le Soleil. Quand l'alignement est exact, on dit que c'est l'opposition, car le Soleil et la planète sont à l'opposé dans le ciel. La planète se lève quand le Soleil se couche. C'est le moment où on est aussi le plus près de la planète, donc elle est plus grosse dans les télescopes, Et comme elle monte haut dans le ciel en milieu de nuit, c'est une période propice à son observation. Pour Mars, c'est aussi le bon moment pour envoyer des sondes vers elle, car elles profiteront d'un trajet plus court. Jupiter et Saturne sont très éloignés du Soleil, donc se déplacent très lentement sur des orbites très longues. Jupiter fait un tour complet en environ 13 ans et Saturne en à peu près 30 ans. Donc l'opposition se reproduit en guère plus d'un an quand la Terre a fait une révolution complète depuis l'opposition précédente. C'était le cas pour Jupiter le 8 mars dernier et c'est pour cela qu'on l'observe très brillante dans le ciel en ce moment, pratiquement pendant toute la nuit. Pour Mars, beaucoup plus proche, l'opposition se reproduit en un peu plus de 2 ans, c'est-à-dire quand Mars a fait un tour complet du Soleil et la Terre un peu plus de 2. C'est pour cela que les sondes martiennes sont envoyées tous les 2 ans. Si on prend les plus récentes, Curiosity était envoyée en 2012, Maven en 2014, on a parlé d'ExoMars cette année, la deuxième mission ExoMars sera en 2018. Cette année, l'opposition de Mars sera le 22 mai exactement. Donc Mars sera bien observable dans les petits télescopes pendant tout le printemps, mais elle est déjà bien brillante dans le ciel depuis plusieurs semaines. Et je propose aux auditeurs d'observer un phénomène particulier qu'on appelle la boucle de rétrogradation. C'est-à-dire le fait que Mars va pendant quelques semaines changer de sens de déplacement dans le ciel. Pour comprendre ce qu'on observe à ce moment-là, on peut prendre une analogie dans la vie courante. Supposons que nous roulions en voiture, la Terre, assez vite sur la voie de gauche de l'autoroute, et que nous doublions une voiture un peu plus lente, Mars, qui est lui sur la voie de droite. Bien sûr, par rapport au bord de l'autoroute, on voit bien que les deux véhicules avancent dans le même sens, vers l'avant. Mais si on prend un point de repère dans le paysage, par exemple un clocher ou une montagne encore plus loin, pendant toute la durée du dépassement, on verra l'autre voiture qui recule par rapport à ce repère. C'est exactement ce qui va se passer dans le ciel avec des repères lointains que sont les étoiles. Quelques semaines avant et après l'opposition du 22 mai, on verra Mars reculer dans le ciel.
Mais pourra-t-on voir ce changement justement dans le ciel ?
Oui, en avril. Mais il faut se lever tôt et être patient. En ce moment, Mars avance encore dans le sens normal des planètes par rapport aux étoiles, de l'ouest vers l'est. Alors on pourrait dire plus familièrement de droite à gauche, hein, quand on regarde en direction du sud. Et c'est assez facile de repérer ses déplacements sur quelques jours par rapport aux étoiles de la constellation du Scorpion qu'il est en train de traverser, notamment la brillante étoile Antares, qui a une couleur un peu orangée comme Mars, et un peu plus à l'est, donc à gauche, on va dire, il y a aussi un point brillant jaunâtre, c'est la planète Saturne. Et comme elle se déplace très lentement dans le ciel, on peut aussi la prendre comme un repère fixe. Dans les prochains jours, Mars va ralentir petit à petit jusqu'à s'arrêter et repartir dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'ouest, vers la droite. L'inversion se produit exactement la nuit du 16 au 17 avril. Après quelques semaines à se déplacer à l'envers, elle repartira dans le bon sens, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Si on matérialise son déplacement sur environ 6 mois, de février à août, cela dessine comme une boucle dans le ciel. En fait, ça ressemble un peu à un S que fait Mars dans le ciel. Et si on en revient au début de cette rubrique, ce phénomène a une grande importance dans l'histoire de l'astronomie. Car ce comportement étrange posait des problèmes au vieux modèle géocentrique, donc celui avec les planètes qu'on pensait tourner autour de la Terre. Pourquoi elles se mettraient à changer de sens de temps en temps? C'était difficile à comprendre. Et c'est justement en étudiant le mouvement de la planète Mars, connu très précisément par les observations de son maître Tycho Brahe, que Johannes Kepler a pu établir les lois du mouvement des planètes en s'appuyant sur le modèle héliocentrique de Copernic.
Allez, troisième partie de votre chronique astro, Michel, le ciel du mois.
Voilà, avec le passage à l'heure d'été, la nuit noire vient bien plus tard, hein, vers 21h30, début avril, et ce sera 22h à la fin du mois. Assez vite, c'est le ciel de printemps qui s'impose dans le ciel avec sa constellation principale, hein, je parle des fois de constellation vedette, le Lion. En début de mois, elle est vers le sud-est, en début de nuit, et en fin de mois, elle sera plein sud. Il est assez facile de la dessiner avec le groupe d'étoiles qui forme sa crinière, et ressemble à une faucille dans le ciel, ou un point d'interrogation inversé droite-gauche, si on veut. Avec à la base son étoile la plus brillante, Régulus. Juste sous son ventre, il y a aussi un objet très brillant, le plus brillant du ciel, sauf la Lune, c'est Jupiter. On peut essayer de l'observer avec une paire de jumelles pour voir ses 4 principaux satellites. Mais comme chaque mois, il est difficile de faire des dessins à la radio, donc je renverrai les auditeurs sur notre site web, hein, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, dans la rubrique Astronomie ciel du mois, où je publie les cartes du ciel avec les constellations.
Voilà, puis on rappellera bien sûr l'adresse du site, notamment sur la page Facebook de Doradio. Alors toujours dans le cas du ciel du mois, qu'en est-il des planètes ?
Alors je viens de parler de Jupiter, hein, qui est la planète vedette du moment car on la voit toute la nuit et très brillante, hein, donc juste sous le Lion. Pour Mars et sa boucle de rétrogradation dont j'ai parlé juste avant, c'est plutôt le matin qu'on peut l'observer en ce moment. Elle se lève début avril vers 1h du matin. Mais donc le plus facile, c'est de la voir juste un peu avant l'aube, disons jusque à peu près vers 6h30 où on peut la voir au milieu des étoiles. En fin de mois, on pourrait commencer à l'observer en début de nuit car elle se lèvera vers 23h30. Mais toujours pareil aussi le matin, mais ce sera plus tôt, hein, fin avril, ce sera plutôt vers 5h30. Alors Mars est facilement reconnaissable à son éclat, qui est supérieur à toutes les étoiles voisines hein, aujourd'hui, et sa couleur un peu orangée. Si on veut suivre son trajet dans le ciel, comme je le disais tout à l'heure, il faut repérer sa position dans la constellation du Scorpion. Alors le Scorpion forme comme un espèce d'éventail, avec une étoile brillante et orangée, c'est Antarès, ce qui veut dire l'autre Mars, parce qu'elle a un peu la même couleur que Mars. Et devant elle, il y a quatre étoiles assez brillantes qui forment comme une ligne légèrement arquée, donc à droite, hein, devant elle à droite. Dans le voisinage, on peut voir aussi Saturne, comme je le disais tout à l'heure, qui est presque aussi brillante que Mars, mais qui a, elle, une couleur plutôt jaunâtre. Elle est plus à l'est, hein, donc à gauche, et se lève à peu près une demi-heure après Mars.
Voilà, et toujours dans le cadre de votre chronique, dernière partie, alors on parle du ciel du mois, mais là, vous allez nous parler quelques mots hein, sur les éphémérides.
Oui, alors on n'a pas toujours des phénomènes aussi spectaculaires que le transit de Mercure du 9 mai. Hein, et au mois d'avril, on aura des phénomènes habituels, hein, comme souvent j'en parle les autres mois, c'est-à-dire les conjonctions de la Lune avec les planètes, hein, le rapprochement de la Lune et des planètes. Il faudra patienter jusqu'au dimanche 17 avril pour la voir le soir près de la brillante Jupiter. Et enfin, elle passera près de Mars et de Saturne les matins du lundi 25 avril et mardi 26 avril.
Alors, prochain rendez-vous, Michel. Après, on va parler, bien sûr. Vous allez nous redire quelques mots sur l'association Constellation et Galaxies. Alors, est-ce qu'on se voit le 27 avril prochain pour la chronique numéro 20, Chronique Astro ?
Voilà, normalement, c'est le rendez-vous, dernier mercredi du mois. Je pense que je reparlerai à nouveau un petit peu du transit, ne serait-ce que pour expliquer les précautions qu'il faut prendre pour essayer d'observer. Et entre-temps, j'aurai regardé un petit peu quels sont les clubs d'astronomes de la région qui proposeront d'accueillir le public.
Voilà, le rendez-vous est pris pour le 27 avril. Alors, Constellation et Galaxies, donc site internet, rappelez-nous quelques missions, notamment sur le planétarium. Hein,
bien voilà, alors, nous sommes une association hein, qui travaille dans le domaine de la diffusion de la culture scientifique, hein, et plus spécialement dans le domaine de l'astronomie, comme on peut le comprendre avec ma chronique. Et nous avons en particulier un planétarium itinérant qui se déplace sur tout le nord de l'Aquitaine, hein, donc la Dordogne, une partie de la Gironde, du Lot-et-Garonne et même d'autres départements voisins. Sur le site www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, dans la rubrique Planétarium, on va trouver toutes les informations pour savoir comment on peut l'accueillir, quelle place il faut pour l'installer. Hein, c'est une structure gonflable. Et le contenu des séances, de quoi on parle, et un petit peu aussi les tarifs, parce que malheureusement, ça peut pas être complètement gratuit. Et dans le même site, on va trouver aussi des informations sur des expositions, mais là c'est plutôt pour la Dordogne, hein, elle circule surtout en Dordogne, et comme je le disais tout à l'heure, la rubrique astronomie avec en particulier le ciel du mois qui permet d'avoir les cartes qui complètent un petit peu les chroniques que je fais ici.
Très bien, ben encore un grand merci à vous Michel, à la fois sur la réalisation, présentation de cette chronique, donc c'était la numéro 19 et rendez-vous au 27 avril prochain, ce sera mercredi, toujours à Vaudo Radio 91.3, ce sera la chronique numéro 20, encore un grand merci à vous Michel.
Au revoir.